Cet épisode a été enregistré le 1er mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play ball.
Hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game.
De Blaireau et un podcast par jour. C'est l'épisode 10, c'est présenté par moi, Mike, et le Brian Wilson du pauvre, Guillaume.
Salut à tous.
Parce qu'ici, on a prévu de payer peu, mais de gagner beaucoup, préparez-vous à l'upset éternel. C'est la même que l'an dernier, mais est-ce qu'on y croit autant? Bienvenue chez les Cleveland Guardians. Mais Marty, c'est impossible qu'on soit en 2023. Ils étaient en ALDS en 2022. Et là, ils sont le 10e épisode. Tu t'es gouré, Marty. Mais non, je vous jure, Doc, l'almanach des sports ici s'appelle Balisport. Eh oui, les Cleveland Guardians, 3e quand même, hein, de la division, alors qu'ils ne sont que 10e compte plein. Ça reste entre nous, c'est peut-être une scène troll. Peut-être, peut-être. 76 victoires, 86 défaites. Un line-up qui a vraiment sous-performé, notamment en termes de puissance et de régularité, autre que l'average, starting pitcher moyen moins, relief pitcher plutôt pas mal. 2022 versus 2021, plus 12 wins. 2023 versus 2022, moins 16 wins. Donc, ça veut dire que c'était pire que 2021. La grande débandade de leur dernière saison aussi médiocre remonte à 2012. Depuis 1995, Guillaume, ils ont seulement 3 saisons qui étaient pires que celle-ci en termes de bilan. C'était assez fou au niveau du pitching. Bon, on va retenir Tyner Beebe, top 5 en ERA parmi les pitchers qui ont lancé assez de manches pour être qualifiés. 2,98 en ERA, 3,6 de WAR, 142 inning pitch, seulement 141 strikeout. Et ça rejoint quand même un petit truc où quand même les starting pitchers de la ML des Cleveland Guardians sont ceux qui ont accordé le moins de home run de la ligue. Au niveau du batting, Andrés Giménez, saison de la confirmation, Gold Glove, bon, bâton un peu plus moyen quand même qu'en 2022 avec un OPS plus à 98. C'est pas foufou. Donc on va parler de qui? Bon, on va parler de José Ramírez, les gars, All-Star, encore 10e MVP, c'est sa 6e saison sur cette dernière où il est top 10 MVP, OPS plus à 131, OPS à 831, 28 stolen base, 24 home run, 28 stolen base. Quand tu vois le physique du garçon, tu te dis qu'il est quand même pas à la base préétabli pour faire ça, il n'est pas de grossophobie. À la trade deadline, eh ben, ils ont laissé partir Josh Bell, Aaron Civale, Ahmed Rosario et un peu de cash. Pourquoi? Bah, ils avaient compris que c'était perdu, hein, puisqu'ils ont même fait venir Noah Syndergaard, Chris Valimont, Kel Manzardo, Jean Segura pour tout de suite, en plus le DFA de mémoire, et Khalil Watson. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, entre le 12 mai et le 14 mai, Cleveland, Josh Naylor, le joueur dont on va peut-être commencer à parler, qui a frappé le go-ahead homer dans le 8e inning, c'était contre les Angels. Il avait commencé cette série avec 3 home runs et lui, il l'a fait 3 fois, hein, d'affilée, tout simplement, assez ouf. Contre les Cleveland Guardians, contre les Astros, les Guardians ont gagné 19. Les Guardians sont dans ce match, mec, un truc complètement fou. Ils étaient derrière 5 fois. 5 fois depuis la 7e manche. Et ils ont fini par gagner. Ils n'ont jamais eu le lead dans ce match avant le 408e pitch du match. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire depuis 1901 qu'une équipe gagne un match alors qu'ils ont été 5 fois derrière le World Series Reigning Champion. Les Kansas City Aces de 1963. Et est-ce qu'on reparle de la patate de Forain contre Tim Anderson? À jamais dans mon cœur, le vrai MVP de 2023 pour ce highlight. Pecota les voyait 88-74 à la deuxième place et en postseason, moi je les voyais même en World Series. Comment te dire qu'on est un peu loin de la vérité? Et Guillaume, quand il n'y a pas de postseason?
Et bah, place à la off-season. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la masse salariale? La saison dernière, c'était une projected payroll de 85 millions et demi de dollars. Et cette année, on est sur une projection de 93,5 millions de dollars. José Ramírez, qui est le premier salaire avec son extension, et avec Shane Bieber, c'est les deux seuls joueurs au-dessus des 10 millions. Donc, Qu'est-ce qu'on attend de la post-season? On attendait qu'ils fassent un petit peu du Guardians, et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. En arbitration, ils ont signé Sam Hedges, Rolver, Scott Barlow, Rolver, Nick Sandlin, Rolver, James Karinchak, Rolver, Shane Bieber, Starter, Tristan McKenzie, Starter, Josh Naylor, première base, Ramon Laureano, champ droit. En free agency, ils ont signé catcher Austin Edge, qu'ils ont signé pour un an, et Ben Lively, starter, qu'ils ont signé pour un an également. Ils ont perdu Sandy Leon, catcher, Cole Calhoun, première base, Luis Oviedo, Rolver, Reynaldo Lopez, Rolver, Lucas Giolito, starter, et Zach Plesac, starter, qui lui a refusé d'aller en minor league. Est-ce qu'il avait raison? Je sais pas. En tout cas, il a un faible niveau pour les Major League. En trade, Estevan Florial, qu'ils ont tradé depuis les Yankees, et ils ont laissé partir un lanceur Cody Morris, Scott Barlow, Rolver, qui arrive de San Diego, et ils ont laissé partir un lanceur, Eniel de los Santos. Blessé, ils vont commencer la saison avec Trevor Stephan, un Rolver sur le banc. Le farm system des Guardians, c'est 22e seulement, donc autant te dire que là, pour le moment, ça va être compliqué. Il va falloir faire pendant un petit moment avec ce qu'on a sur le terrain, et il n'y a pas grand chose. Ils ont quand même 4 joueurs qui sont dans le top 100. Il y en a 2 qu'on devrait voir arriver cette année. Kyle Mansardo, première base, 59e, qui devrait arriver dans l'année. Et Brian Rocchio, shortstop, deuxième base, 91e, qui devrait lui aussi arriver. On parle de Chase de l'auteur aussi, qui est un outfielder. Je ne sais pas pourquoi ils mettent un estimated time arrival 2025 alors qu'il est déjà niveau MLB. Pareil pour Daniel Espino. Bon, écoute, c'est comme ça. Le line-up prévisionnel, catcher Bo Naylor, première base, Kyle Mansardo, deuxième base Andrés Jiménez, troisième base José Ramirez, shortstop Brian Rocchio, champ gauche Steven Kwan, champ centre Miles Straw, champ droit Ramon Laureano, DH Josh Naylor. Vous l'avez bien entendu, c'est le frère du premier. Sur le bench, Austin Edge, Gabriel Arias, Evinson de los Santos et Estevan Florial. La rotation, starter, Shane Bieber, Tristan McKenzie, Tanner Bibby, Logan Allen, Gavin Williams. En setup, Scott Barlow ou Sam Hedges. En closer, Emmanuel Classé. Et dans le bullpen, Nick Sandlin, Ellie Morgan, James Karinchak, Ben Lively et Carlos Carrasco. Le retour. Qu'est-ce qu'on attend et qui on va suivre cette année, Mike?
Le team captain, celui qui fait flipper, à mon avis, la plupart des lanceurs aujourd'hui, un espèce de candidat favori, challenger, MVP pérenne, un mec que t'as l'impression qu'il va jamais l'avoir, mais qui est tout le temps dans le top 10 ou dans le top 5, c'est José Ramirez, quoi. On en rigolait de la droite qui met à Tim Anderson, mais en vrai, ça démontre aussi un truc, c'est qu'un mec qui a l'air assez paisible, calme, réservé, c'est un gars qui a du caractère. C'est un gars qui est un meneur, qui est un leader dans ce vestiaire, et ils vont en avoir besoin parce que on en a pas parlé, mais mine de rien, il y a un petit changement avec la sortie de Terry Francona, on y reviendra après. Ils vont avoir besoin de leaders, et José Ramirez en est un, et il y en a un autre pour moi, enfin il y en a deux autres pour moi dont il va falloir qu'on parle, qui sont avec Ramirez, c'est Steven Kwan et Josh Naylor. Kwan, ça a été la surprise de 2022, Josh Naylor, ça a été la surprise de 2023. Tous les deux, ils sont projetés top 100 players de la ligue. Si tu rajoutes à ça Ramirez, puisqu'on a dit de Jiménez, ce top 4, j'aimerais bien savoir à quel niveau dans les power rankings on le met. Parce que très honnêtement, l'alignement là du Kwan, Jiménez, Ramirez, Naylor, faut y aller, hein. C'est très très bon. C'est très 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 bon.
Non, c'est clair. Moi, par contre, il y a un truc qui me gêne, tu vois, c'est quand je vois un 91 pour Andrés Jiménez, je suis pas d'accord du tout, parce que Andrés Jiménez, alors c'est peut-être pas le meilleur bâton, mais putain, défensivement, qu'est-ce qu'il est fort, quoi. Et au moment, souviens-toi, tu sais, quand ils vont trader Francisco Lindor et qu'ils le laissent partir, qu'ils récupèrent Ahmed Rosario et Andrés Jiménez, on se disait, qu'est-ce que ça va donner et tout. Bah écoute, pour Ahmed Rosario, ça va pas donner finalement quelque chose de formidable, mais quand tu vas récupérer un mec comme Andrés Jiménez, alors c'est pas un shortstop, c'est pas le meilleur bâton, mais putain, qu'est-ce qui fait du bien en défense dans ton infield. Donc ouais, moi je pense que il y a quand même quelque chose de bien au niveau du du line-up, on parlait pour les Mets, tu vois, d'un 1-2-3-4 qui est assez impressionnant. Bah, c'est pareil, là, le 1-2-3-4 sur tes quatre premiers que tu vas mettre, et que tu vas faire passer au bâton. Steven Kwan, Jiménez, Ramirez et Josh Naylor. Waouh, franchement, ça envoie déjà pas mal de bois, quoi. T'es quand même sur quelque chose qui, ça pose des bonnes bases, on va dire, dans ton line-up.
Et après, c'est les montagnes russes, parce que 5, 6, 7, 8, 9. Ramon Laureano, Bonellor, Calmonzardo, Brian Rocchio, Miles Straw. Là, tu commences à rentrer dans des trucs un petit peu plus complexes, parce que Bonellor, Manzardo, Rocchio, quand même, ces trois-là, ça va être du rookie. C'est des mecs qui sont pas projetés top. Même si, attention, Manzardo et Rocchio, c'est les deux meilleurs prospects selon Fangraph des rookies. T'as trois rookies et après à la fin, tu finis par Straw, qui est quand même un joueur moyen sur le papier. T'as une vraie question sur leur profondeur et les capacités à les substituer aussi. Puisque Austin Hedge, Arias, De Los Santos et Florial, c'est pas non plus aujourd'hui des top joueurs. Laureano, bah, depuis sa suspension, c'est plus le même. Hein. Celui de 2018 et 2019, il a complètement disparu. Par contre, s'il revient, attention. C'est-à-dire que là, encore une fois, tu as un top 4 sur qui tu peux t'asseoir. Tu as un top 5 qui est un pari, mais si jamais il clique, ça va faire mal. Et derrière, le 6, 7, 8, 9, bah, t'as des mecs qui, si jamais ils surprennent et qui sont par rapport à ce qui peut être attendu par tous les analystes, franchement, le 9, là, il est, ok, tu paries ta maison sur les quatre premiers, mais les 5 d'après, c'est pas non plus moche, hein.
Bah, c'est beaucoup de paris, mais c'était déjà beaucoup de paris la saison dernière. Donc, voilà, c'est ça, en fait. On va pouvoir que spéculer sur des trucs où, en fait, t'as, à part José Ramirez sur lequel t'as vraiment des certitudes, Jiménez aussi, Kwan, il a prouvé qu'il a fait deux super saisons, donc on peut s'attendre au reste. Après, même Josh Naylor, hein, tu en sais pas trop ce que ça va donner. Et après, t'avais la rotation qui était une des forces, en fait, historique, on va dire, des Guardians. Là encore, ils ont des joueurs, t'as Shane Bieber, t'as Tanner Bibby, Logan Allen et tout. Gavin Williams encore, qui est projeté à 103e. T'as quelque chose qui est quand même assez sûr. T'as une belle rotation. Après, c'est le bullpen est un peu plus compliqué, à part Emmanuel Classé qui est vraiment au-dessus, t'as Scott Barlow aussi. Le reste, après, c'est un peu plus dommage, quoi. C'est un peu plus, ça va être en dents de scie, je pense, à ce niveau-là.
Ouais, mais je suis pas, je sais pas, parce que déjà, bon, Classé, il a été un peu moins bon l'an dernier, mais même comme ça, il a encore été très fort. Il est projeté dans le top 10 des meilleurs releveurs de la ligue. Il serait en top 3, personne ne serait surpris. Sam Hendges, il revient de blessure. Carrasco, il va être transféré sur le bullpen, qu'est-ce que ça va donner? Mais en même temps, Scott Barlow, c'est pas dégueu. Nick Sandlin, c'est pas dégueu. James Karinchak, c'est pas dégueu non plus. Le bullpen, il est peut-être un peu irrégulier, mais ce qui est assez impressionnant dans ce bullpen, c'est assez simple, c'est qu'en vrai, hormis peut-être la question qu'il y a sur Ben Lively, parce que de ce qu'on a vu de lui, c'était pas fou, en vrai, les autres, t'as pas de lanceurs mauvais. T'as pas de mecs qui sont venus faire le nombre. Et c'est ça qui fait flipper dans ce bullpen, c'est que en gros, tu sais ce que tu vas avoir. Tu vas avoir quelques blowouts et quelques problèmes, mais en réalité, dans sa globalité, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Après, l'autre question, c'est la rotation qui a toujours été une grosse force des Guardians, qui l'an dernier a pas été vraiment au niveau de ce que l'on pouvait attendre au global en termes de chiffres et de stats. Là, cette année, le Bieber, McKenzie, Bibby, Allen, Gavin Williams. Attention, on pourra vite les voir dans des top rankings plutôt haut placés, parce que McKenzie, il est projeté assez bas, mais je trouve que c'est pas sa vraie place. Mais le Bieber, Bibby, Allen, Williams, même si le Bibby, Allen, Williams, c'est de la jeunesse, hein, c'est un an et de rookie, ça peut être très très lourd à aller frapper ça. Hein.
Non, mais c'est clair. Et puis en plus, c'est comme je disais, hein, c'est historiquement, c'était une des forces de la franchise, justement sa rotation et ses starters. Donc ouais, non, c'est une belle, il y a des beaux paris en fait dans cette franchise sur cette off season qui a été ils ont fait du Guardians, ils l'ont plutôt bien fait. Maintenant après, c'est vraiment, ça va dépendre de comment ça va se passer. Sur le papier, il y a des très très beaux trucs, mais on sait pas trop. Et puis c'est surtout le line-up en fonction de s'il va cliquer ou pas.
C'est quand même 5 participations à position sur les 8 dernières. La vraie question qu'il y a, en fait, qui tourne, c'est que on a parlé de Maestro vite fait, mais c'est un mec qui frappe pas assez. Mais défensivement, qu'est-ce qu'il est fort? Question
Ouais,
d'or.
mais par contre, tu vois, par exemple, il t'amenait beaucoup plus les saisons précédentes en stolen base. Là, c'est la saison dernière, alors que pourtant, c'était l'année pour faire des stolen base. Et finalement, son total, il est vraiment pas terrible la saison dernière. Donc, qu'est-ce
La
qu'il
vraie
va
question.
ramener?
Ouais, la vraie question qui tourne autour de la vie, c'est quand même Shane Bieber. Faut pas oublier parce que il a quand même été blessé dans deux des trois dernières saisons. Il est free agent après cette année. Si t'arrives en juillet et que les Cleveland Guardians sont genre premiers ou vraiment contenders, peut-être qu'ils le garderont. Mais connaissant la franchise, il y a quand même de fortes chances que le gars il s'en aille parce qu'ils pourront pas payer Shane Bieber à 29 ans aujourd'hui.
Ah non, c'est clair. Non, non, Shane Bieber, il va coûter trop cher. C'est surtout qu'en plus, il va avoir 29 ans quand ça va être le moment de renouveler le contrat. Donc avant la trentaine, tu peux être sûr qu'il va lander un contrat plutôt énorme. Donc non, et c'est pas du tout de toute façon dans l'ADN des. Ça faisait longtemps hein, quand ils re-signent José Ramirez, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas offert un gros contrat à un de leurs joueurs pour le re-signer. Donc je suis pas sûr qu'ils mettent de l'argent, enfin qu'ils mettent un gros gros montant pour garder Shane Bieber.
En parlant de gros montants, c'est le moment des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parions à tort, le seul site de paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors Guillaume, pour les Cleveland Guardians, post-season ou pas post-season?
Non, pas post-season, mais je les vois quand même terminer. Je pense qu'ils ont des chances de terminer devant les Tigers cette année. Je les vois peut-être un petit peu meilleurs que la saison dernière. Pas forcément énorme, mais je pense qu'ils vont remonter au-dessus des 500. Je les vois bien à 82 victoires.
82 victoires, 80 défaites pour les Guardians. Pour toi, eh bien, écoute-moi, je les mets premiers. Je les vois à 88-74 parce
D'accord.
que j'aime bien cette équipe, j'aime bien l'upset permanent. Je pense qu'il y a des vrais leaders. J'ai l'impression que l'an dernier, c'était quand même un gros, gros fail, notamment dû à cette espèce d'incertitude de Bali, du fait que on ne sait pas ce qui se passe. La grosse question pour moi, c'est Shane Bieber. Si les Guardians font le pari de le garder et qu'il est en pleine forme, ils peuvent aller loin. Et puis, il faut pas oublier que ce niveau de division, enfin, dans cette division, tu peux faire 4 mois mauvais et tu te réveilles les deux derniers et puis d'un coup tu reviens, tu remontes. Moi je les mets premiers, c'est juste pour dire que voilà, j'y crois, ils y seront certainement pas puisque j'aurais forcément tort, mais je les vois à ce niveau-là. En tous les cas, vous pouvez nous écouter dire des choses de merde sur toutes les bonnes applis de podcast et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Guillaume, est-ce qu'on se réécoute demain?
Allez, on se réécoute avec plaisir.
Miguel bate, jaque mate. Miguel bate, jaque mate.
Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera.
Revise sus guías y acompáñenos esta noche de show.
Soy Miggy, el salsero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crown, nacido y criado en Venezuela. Vengo de barrio humilde, llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra, pa' mata cualquiera. Se vino a guerrear, empuje otra